dalam dana
Bien, je vous propose que nous recommencions tout de suite. Bien, je vous remercie d'avoir pu prendre cette pause un peu courte. Avec Béatrice Lebaille, on va repréciser un peu le cadre de nos interventions. On a souhaité que vous présentiez d'études de cas avec une approche un peu synthétique de cette étude de cas. D'accord ? C'est vrai que c'est frustrant de ne pas tout raconter, mais quand on est en réunion de synthèse, on est obligé de condenser un peu sa pensée, de préciser un peu les choses. Alors, je vais rappeler le cadre des deux prochaines interventions. On va leur proposer d'intervenir une demi-heure, pour qu'on puisse avoir le plaisir de discuter avec eux. Parce que sinon, c'est dommage. On les écoute et puis on n'a pas... Alors, ça va être difficile, parce qu'ils sont résistants, hein, vous avez entendu, hein. On s'envoie.
Ouais, hein, ouais. Les médicaux, ils écoutent, d'habitude, ils
s'arrêtent. Et puis,
là, vous obéissez pas du tout.
On est le mauvais objet, là, un peu.
Ah,
hein,
on est les méchants.
On a l'impression que... Bah, voilà. Ça me fait penser aussi comment réguler une réunion de synthèse, hein. Il y a un début, il y a un milieu, une fin. Vous connaissez le problème. Alors, on va tout de suite donner la parole, mais quand même, il y avait quelqu'un qui voulait réagir par rapport à l'intervention précédente. Mais je lui ai dit, vous réagissez 2 minutes, hein, pas plus. Hein. Je lui passe la parole.
Bonjour tout le monde. Je ne pouvais pas m'empêcher de ne pas réagir à la précédente présentation. Très rapidement, donc Pierre Gall, directeur URAPEDA, région PACA. Très rapidement, au-delà de la forme de la présentation, je ne reviens pas dessus, sur le fond, j'ai passé 15 ans dans la protection de l'enfance. Et en arrivant dans le secteur médico-social, il y a quelques années quand même déjà, et dans plusieurs institutions où je suis passé, on parle beaucoup de rééducation fonctionnelle, on parle beaucoup de projets pédagogiques, on parle beaucoup de projets personnels pour l'enfant. Toute la problématique de la dimension intrafamiliale est très peu prise en compte dans notre secteur, très très peu prise en compte. Et sur les présentations qu'on vient de voir là, effectivement, toute la problématique, a priori, je ne connais pas la situation, je ne me permettrai pas d'expliquer, mais a priori, elle est intrafamiliale. Et dans le projet, comment c'est pris en compte ? comment nos institutions prennent en compte ces problématiques familiales. Qu'on soit sourd ou pas sourd, on voit bien que le développement psycho-affectif de l'enfant est lié à la problématique intrafamiliale. En tout cas, là, on peut faire cette hypothèse-là. Et comment c'est traité ? Comment on le prend en compte ? Voilà. Et je trouve que c'est une dimension... Ah oui, dès l'éducation précoce. Hein, mais, et je trouve que c'est une dimension qui n'est pas prise assez en compte dans nos établissements, dans nos institutions, dans nos services. Voilà, c'était juste mon coup de gueule. Voilà, un peu...
Bien, ben, peut-être l'équipe du CRDV va nous en parler. Donc je passe la parole à l'équipe du CTRDV, CRDV, de Clermont-Ferrand, du Comité commun Santé-Bien-être. À vous la parole et vous présentez. Merci.
On va se présenter. Donc déjà pour vous, pour débuter, nous avons choisi comme titre « Les professionnels décontenancés, un besoin de contenance propre à chaque nourrisson, un exemple dans le syndrome de Demorcier ». Donc moi-même, je suis Régine Gano, infirmière puis orthoptiste au Centre de rééducation pour déficience visuelle de Clermont-Ferrand depuis 1982 et j'accompagne les bébés et leurs familles depuis 1992. Et notre discutante est Mme Drina Candili-Suisman, qui est psychologue, psychanalyste, maître de conférence HDR à l'Université de Paris Diderot, enseignante-chercheur à l'UFR Sciences humaines de clinique. Et dans un premier temps, j'avais compris équipe expert et donc j'avais été chercher mon expert sur les nourrissons. Donc voilà pourquoi Drina Candili est avec moi. Parlez plus doucement. Donc, je présente notre service des tout-petits, le SAFEP, le service d'accompagnement familial et d'éducation précoce au sein du CRDV de Clermont-Ferrand, qui comprend une équipe professionnelle constituée d'un chef de service, d'une éducatrice de jeunes enfants, d'une psychologue, d'une psychomotricienne, d'une orthoptiste, d'un ophtalmologiste, d'un pédiatre, d'une infirmière et d'une assistante sociale. Donc, je ne reviens pas sur la classification qu'on a vue ce matin et je vais directement passer sur le syndrome de Demorcier. Donc, qu'est-ce que le syndrome de Demorcier ? Il est aussi dénommé dysplasie septo-optique et est en fait le résultat d'anomalies de la diverticulation au cours de la cinquième semaine de vie embryonnaire et ayant pour conséquence des atteintes variables de toute la ligne médiane du système nerveux central, associant le plus couramment une hypoplasie des voies optiques, une hypoplasie des bulbes olfactifs et une hypoplasie de l'antéhypophyse. Donc la dysplasie septo-optique a une incidence de 1 pour 10 000 et donc fait partie des handicaps rares. Alors, qu'est-ce qui est important ? C'est que la dysplasie septo-optique, nous la côtoyons dans nos établissements et nous la côtoyons régulièrement et sur la durée. Donc nous avons connaissance de ces enfants et depuis 2006, nous avons eu 4 nouveaux cas. Pour l'instant, notre clinique de la déficience visuelle nous portait dans nos accompagnements. Et puis, il y a eu l'IO. L'IO, une rencontre singulière. Alors, l'IO, les atteintes cérébrales, elles sont plus importantes que celles que nous connaissons habituellement. Hypoplasie papillaire et atrophie optique bilatérale, qui génère la déficience visuelle. Hypoplasie de l'antéhypophyse et de la post-hypophyse, mais sans hypopituitarisme, pour l'instant déclaré. Une agélésie septale, dont la conséquence fonctionnelle est ignorée, une image kystique dont la conséquence fonctionnelle était vraiment aléatoire ignorée, et d'autre part, une position basse des amygdales cérébelleuses dont l'engagement correspond à une malformation de Carey, qui est une variante soit de la normalité, soit une pathologie incertaine avec un déséquilibre de pression, et surtout qui peut amener des douleurs et des céphalées à côté desquelles on pourra passer et qui m'ont toujours questionné dans la problématique de cet enfant. Donc, une rencontre singulière, l'IO, les autres structures cérébrales sont préservées, notamment les bulbes olfactifs, le corps calleux et l'audition et les PEAP sont normaux. Alors, un parcours déjà dense avant de nous arriver, nous, au CRDV. L'IO est la première enfant de parents très jeunes. La maman a été hospitalisée pour menace d'accouchement précoce à 7 mois. Il y a une inquiétude de la maman dès l'âge de 3 mois, avec un bilan ophtalmologique. Elle a été suivie par l'AS de secteur pour des problèmes financiers, chômage. Puis, en relation avec la PMI, il y a une orientation vers le CAMS et une reconnaissance du handicap. Le premier bilan a lieu à l'âge de 11 mois pour problèmes moteurs et les parents sont vigilants mais fatigués. Le suivi au CAMS débute à 14 mois et la première stimulation au SAFEP du CRDV s'est faite à l'âge de 27 mois parce que les parents ont été orientés par le CAMS, il faut dire que les parents habitent à 2h30 de notre centre. L'IO a été fréquemment petite, dans l'obscurité, car sa maman posait une couverture sur l'ensemble du lit. Les débuts de l'accompagnement au SAFEB. À son arrivée à 27 mois, l'IO marche. Elle fixe en monoculaire, elle va saisir un objet, et soit elle le met à la bouche, soit le frotte contre son visage et sur ses lèvres. Et elle est happée par cette activité. L'ajustement en profondeur est difficile si l'objet est petit. Elle a des comportements d'auto-agression à la maison, pas en séance. L'IO va rapidement être capable de lâcher un objet pour en saisir un autre, qu'elle commence à explorer tranquillement. Une nouvelle IRM est demandée par notre pédiatre à l'âge de 28 mois. Un premier contact oculaire a lieu 45 jours après notre première rencontre. Un tiens-donne est introduit. 3 mois se sont écoulés depuis la première stimulation. Les parents ont toujours été présents et les échanges ont été nombreux. Et puis, il y a un changement dans la famille. Après ces 45 premiers jours, l'IO a 2 ans et demi, les parents rencontrent la psychologue durant la stimulation et pour la première fois, l'IO est seule avec moi. Les activités proposées, les interactions arrêtent les comportements d'autoagression qui sont présents quand elle arrive. La maman de l'IO est enceinte. Le papa désire ce deuxième enfant pour stimuler l'IO. La maman ne peut plus faire les trajets. Le papa accompagne sa fille, mais ne reste plus en séance. Les résultats de l'IRM que je viens de vous lire tout à l'heure, ainsi que les bilans complémentaires à faire, sont présentés par le pédiatre à son papa. Et là, une première évaluation à 8 mois. L'IO a 2 ans et 11 mois. Elle fixe, poursuit un objet du regard, explore la scène visuelle et elle partage très fréquemment le regard. Elle chantonne et fait les gestes associés aux chansons. Apprise, elle anticipe la chute de celle-ci. Elle est dans un chacun son tour au jeu de bruitage et répète les mots proposés. Elle est rentrée dans des scénarios d'interaction qui l'apaisent. Son petit frère est né en juin. Elio, régression. À la rentrée scolaire, 3 ans, après 2 mois d'interruption, les vacances scolaires, Lio est centrée sur elle-même, se tape dès que la situation est inconfortable pour elle, et elle met ses mains entre son corps et les surfaces où elle tape. Très sensible aux chansons, elle irait jusqu'à s'endormir. À 3 ans, 4 mois, Lio est dans un corps à corps avec sa maman et craint par cœur l'effleurement. Elle refuse de marcher, elle a été beaucoup poussée en avant par sa famille. Elle présente des troubles du sommeil. Puis elle progresse sur le plan visuel. Elle va chercher les objets avec une bonne localisation et une bonne orientation de la main sous données visuelles. Elle fixe et explore du regard. L'exploration tactile, elle, est encore très fugace. La plupart du temps, elle ne délie pas ses doigts, ne palpe pas et n'utilise pas la pince. Et à 4 ans. À 4 ans, Lio présente un comportement très fluctuant entre crise où elle crie, se frappe, fluctuant aussi face à l'intensité sonore. Elle apprécie les situations contenantes corporellement et les soins du corps, brossage des cheveux, nettoyage de ses plaies et passage de crème adoucissante. Elle présente une écolalie, une production de sons ou de mots en dehors de la situation. Lio peut répondre quand même à des consignes simples. Elle semble reconnaître les personnes familières du CRDV. Après une longue période de difficultés alimentaires, Lio est capable de manger seule une fois la cuillère remplie. Elle se tient à table sans aucune colère dans un réfectoire avec les enfants de son groupe. L'année suivante, ses comportements vont fluctuer, mais les troubles envahissants du développement vont persister. Alors pour moi, l'IO, ça a été vraiment l'élément déclencheur. Les déficiences détectées ne nous renseignent pas sur les conséquences fonctionnelles. Le bilan complexe amené par l'IRM ne nous donne aucune certitude. Il est nécessaire pour les professionnels d'aller chercher des réponses. La question reste et est fondatrice d'une recherche pour une meilleure compréhension, d'une observation accrue si cela se reproduit, d'une invitation à remettre en scène régulièrement en réunion pour penser ensemble. Comment aurions-nous pu mieux accompagner, être au plus proche de ses besoins de son développement, stimuler et contenir? Et puis, quand la dysplasie septo-optique associe hypoplasie des voies optiques et hypoplasie des bulbes olfactifs, c'est encore plus rare, et elle est dénommée habituellement dans nos établissements syndrome de Demencier. Nous allons vous présenter 2 enfants qui sont donc arrivés, Hugo et Laurent. Hugo y présente au fond d'œil une hypoplasie favillaire, à l'IRM, des nerfs optiques orbitaires et intracaniens, graines et un chasmia, grêle, des bandettes minces, une absence de bulbe olfactif et de sillon olfactif, peu creusé, aucune visualisation de la tige pituitaire et de la post-hypophyse. D'autre part, il a une brachycéphalie donnant un aspect de petite fosse postérieure et il a un déficit hormonal de croissance qui est traité. Les autres structures cérébrales sont présentes, notamment un corps calleux complet et normalement myélinisé, un septum complet et des canaux semi-circulaires, droite et gauche. La myélinisation est conforme avec l'âge. Hugo est orienté dès ses 5 mois vers le SAFEP par le médecin ophtalmologique qui vient de poser le diagnostic à l'hôpital et qui téléphone de son bureau en présence de la maman pour qu'on puisse la recevoir immédiatement. Hugo est le premier enfant de parents très jeunes. Toute la lignée féminine entoure Hugo avec beaucoup d'amour, de volonté de faire, mais sans réponse sensible adaptée. Une petite fonction visuelle va se développer avec un œil droit dominant. Hugo présente une surdité droite, ce qui génère des troubles de la localisation en début de vie. Après un développement chaotique, Hugo, actuellement âgé de 6 ans, 10 mois, est suivi en section adaptée et ne peut suivre une scolarisation. Quant à Laurent, lui, il présente au fond d'œil des micropapilles, à l'IRM des nerfs optiques et un chasma et des bandelettes extrêmement grêles et filiformes, des bulbes olfactifs absents, des sillons olfactifs mal creusés et l'exantikis banal. Sur le plan général, il a un eczéma extrêmement important de toute la surface du corps, toute l'enveloppe corporelle eczématiforme. Il se gratte et est pleine de plaies et de croûtes. Laurent est le premier enfant d'une maman très jeune. C'est le pédiatre qui vient d'accueillir Laurent sur la région, qui l'accompagne avec sa maman au CRDV pour un premier contact. Laurent a 5 mois. La situation de la maman va l'amener à demander de l'aide. Laurent va être placé en pouponnière, puis en famille d'accueil, d'urgence, puis en famille d'accueil, à l'âge de 1 an. Alors comment élaborer pour mieux accompagner? Pour ces bébés, il n'y a pas d'enveloppe externe immédiate, puisqu'il n'y a pas de vision. Pour ces bébés, il n'y a pas de contenant interne, puisqu'il n'y a pas d'odorat. Pour ces bébés, il n'y a pas de 3 dimensions, car il n'y a pas de vision et pas encore toucher exploratoire. Pour l'un des deux, l'enveloppe corporelle pouvant s'élaborer grâce à la peau représente au contraire une surface très irritée, amenant à une désorganisation. Et la musique et les chansons, vous me direz, forment certes une enveloppe, mais que représentent la radio et la télévision sans adressage et notre discours adressé, mais sans récepteur constitué. L'analyse est nécessaire pour comprendre les besoins de ces bébés, pour bâtir un projet d'aide au développement et de stimulation. Donc le syndrome de De Morsier constitue donc un état à haut risque de développement, de construction psychique, relationnelle et cognitive. Il nous place professionnels, famille et entourage à la limite de nos capacités à penser, élaborer et trouver des réponses les plus sensibles. Les représentations sont violentes. Pour lui, c'est un monde béant, un monde sans continuité, la peur du vide en permanence. Comment le penser sans s'effondrer et sans être sidéré? Les échanges sont indispensables. Peut-on, doit-on rester sur un mode de développement totalement opératoire, fonction par action? Voilà, il ne voit pas, il ne sent pas. Pour accompagner le développement de l'enfant, accompagner les parents, faire un état de lieu? Les images peuvent-elles survivre ou surviennent-elles toujours? Que représentent-elles? Une représentation des fonctions du bébé, de l'empathie, une identification, et cela vis-à-vis du bébé, des parents? Comment trouver un équilibre pour mieux intervenir et pour accompagner les parents, puisque nous allons annoncer et énoncer? Que devons-nous être, nous professionnels, pour pouvoir tenir cette lecture commune? Et c'est pour ça que j'avais fait appel à mon expert auprès de Drina, hein, pour poser cette question entre les représentations jusqu'à ces identifications qui vont même nous amener, nous, professionnels, parfois à nous effondrer en pensant le monde de ces bébés.
Merci. Je pense que ce que vient de vous décrire Régine est effectivement un monde sans contour. Et lorsqu'on dit que l'empathie, c'est ressentir à la place de l'autre ce qu'on pourrait ressentir soi-même, ici, tous les mouvements d'investissement, d'identification sont barrés par des grandes déficiences sur différents niveaux sensoriels. Donc je comprends très bien que ça présente une énigme, un aspect extrême de l'étrangeté dont on parle tant pour certains enfants, et que cette étrangeté, Régine a déjà amené des éléments pour montrer comment elle les a un petit peu apprivoisés, je dirais, avec des éléments médicaux qui sont intégrés dans la prise en charge, et aussi avec ce qu'elle a dit qui me paraît très important, ne pas penser cet enfant fonction par fonction, mais essayer de le penser dans une globalité et de montrer, justement, on a l'habitude de penser que la sensorialité chez les bébés est transmodale, mais effectivement, cette transmodalité ici, elle est très difficile à construire, on le voit bien, et donc il faut arriver à la construire de l'extérieur avant que l'enfant puisse la reprendre à son propre compte. Et encore une toute petite remarque, Régine, je trouve que c'est extrêmement important d'insister, comme tu le fais, sur les prises en charge extrêmement précoces. C'est une question qu'on s'est posée, je suppose, tous devant les cas difficiles qui nous ont été présentés tout à l'heure. Ici, on a des prises en charge qui commencent à 5 mois, et c'est peut-être aussi toute l'originalité du travail que tu présentes.
Donc, quatrième partie, comprendre la sensorialité en lien avec le développement et les acquisitions relationnelles. Les types d'informations apportées par les sens. Je passe pas mon texte, peut-être. Ah, dommage, ce sera peut-être sur lui. Donc la vision, elle répond à des stimulations physiques, longueur d'onde. C'est un sens à distance, sans aucune composante de proximité, permettant une représentation de la forme de l'objet de façon perceptive, tridimensionnelle. Elle donne une information globale, instantanée, puissante dans un premier temps, puis dans un deuxième temps, la fixation et l'attention apportent une saisie détaillée. Et dans l'établissement des premiers liens et des apprentissages, la vision nous apporte aussi le décodage des émotions, mimiques faciales, signes corporels du système nerveux végétatif. Les comportements, elles rentrent en jeu, bien sûr, dans les comportements d'attachement, partage du regard, être à portée de vue en sécurité. C'est aussi un stabilisateur comportemental. Le retard, le regard peut contenir. Elle permet l'émergence de l'intersubjectivité et elle permet l'imitation pour l'apprentissage et la relation pédagogique. Quant à l'audition, elle répond aussi à des simulations physiques. C'est aussi un sens à distance, mais aussi à proximité par sa composante tactile. Les sons graves sont perçus par les organes mous, par les vibrations. Elle ne permet pas de représentation de forme de l'objet de façon perceptive, tridimensionnelle. Un bruit générique seul permet uniquement la localisation. Le bruit spécifique du moteur de l'avion, même exemple de M. Ancé, permet la localisation et la reconnaissance. Quant au langage, du fait de son aspect narratif, l'information qu'il véhicule se construit progressivement le long du discours et n'est donc pas instantanée. Alors, dans les liens d'apprentissage, dans les liens, dans l'apprentissage et les liens, et dans les apprentissages, excusez-moi, je vais me retrouver. Donc, le bébé, grâce à l'audition, à un retour de ses émissions par le miroir sonore, l'écho-miroir offert par sa mère et l'entourage, et ce qui forme la première peau auditivo-phonétique. Le bain de son qui préfigure le moi-peau, l'enveloppe sonore est composée de sons alternativement émis par l'environnement et le bébé. La voix est aussi un stabilisateur comportemental, comme les mélodies. L'audition permet d'apprécier les distances et surtout les déplacements. Elle est le support d'émissions efférentes et afférentes du langage, un des éléments des échanges sociaux et des apprentissages. Quant au toucher, il répond à des stimulations physiques, différences de pression, différences de température. C'est un sens de proximité permettant une représentation de forme de l'objet de façon perceptive. Mis à part pour les objets de taille réduite, dimension d'étain de l'opérateur, c'est à partir d'éléments explorés un à un, à la suite des uns des autres, spatialement et temporellement, qu'une synthèse est faite. L'approche tactile est plus longue et elle nécessite un effort supplémentaire pour construire cette synthèse. Différence de durée d'un trajet effectué avec la canne, le toucher instrumenté, ou sans, aide visuelle ou guide. Une personne déficiente visuelle ne peut maintenir une conversation soutenue si elle mobilise son attention pour se déplacer, le toucher instrumenté. Alors le toucher, puisque c'est vraiment une des voies sensorielles de nos enfants déficients visuels, cette modalité de contact impose des procédures d'élaboration particulières qui créent des contraintes cognitives bien supérieures à celles de la vision. Moi, je parle toujours, quand je parle des bébés, en termes d'économie et d'attention, d'écologie. Le champ perceptif est réduit. Il faut explorer grâce au mouvement pour compenser l'exiguïté de ce petit champ. Des perceptions kinesthésiques issues de ces mouvements sont alors liées aux perceptions purement cutanées pour former un ensemble indissociable appelé perception tactilo-kinesthésique ou haptique. Il en résulte une appréhension morcelée, plus ou moins cohérente, parfois partielle et toujours séquentielle, qui charge lourdement la mémoire de travail et qui nécessite, en fin d'exploration, un travail mental d'intégration et de synthèse pour aboutir à une représentation unifiée de l'objet. La vision ne viendra pas instantanément réunifier l'ensemble chez nos bébés malvoyants et aveugles. Alors, dans les liens et les apprentissages, eh bien, le toucher, c'est ce qui va générer le moi-peau. C'est ce qui va être le support du dialogue tonique. C'est le dernier rempart avant l'extérieur et l'extérieur. Et normalement, quand on a touché vision, on a beaucoup d'échanges intermodaux. Pour la cécité et les très faibles visions, du fait de l'acuité visuelle effondrée ou de petits champs visuels, les transferts intermodaux visio-tactiles ne peuvent se mettre en œuvre. Il existe alors une distance critique qui définit deux modes de prise d'information. La distance du bras tendu, offrant une zone de préhension et déterminant la frontière entre deux modes, en deçà de l'information tactile prime, et au-delà, eh bien, ce sont les sources sonores et le décours temporel des explorations effectuées qui priment. On verra plus tard l'effet spatial du geste. L'odorat, dont manquent les enfants porteurs d'un syndrome de Demorcier. Il fait partie de la sensibilité chimique. C'est un sens à distance que nous discutons avec Drina, accompagné d'une composante tactile, donc sens de proximité, car la sensibilité trigéminale, donc au niveau de la paroi interne de vos nez, répond aux molécules classées irritants chimiques et est localisée dans la cavité nasale. La réaction première à toute simulation affective est une réponse émotionnelle liée au caractère plaisant et déplaisant de l'odeur. Très important de vous rappeler, plaisant, déplaisant. La réponse émotionnelle est très prégnante, créant la propriété de fidélité. L'odorat permet la reconnaissance du stimulus et la localisation, bien que celle-ci soit moins fiable que d'autres sens du fait de son caractère volatile. Il ne permet pas de représentation de forme de l'objet de façon perceptive tridimensionnelle. Il peut résulter d'une action volontaire, mais aussi involontaire. Nous ne pouvons échapper à une odeur, qu'elle soit agréable ou désagréable. On ne peut se soustraire. Alors l'odorat vignette clinique. Tous nos enfants déficients visuels et aveugles, testés, même s'ils ont un OZE, même s'ils sont gastrostomisés, ils ont une activité de flairage intense et de mimique, de plaisir, par exemple à l'odeur de fraise tagada, qui a une super composante odoriférante, très sucrée. Une activité de flairage continu ou qui s'arrête à la présentation de lessive et des mimiques variables, composantes odoriférantes et tactiles, voie trigéminale. Et une activité de flairage généralement qui cesse très rapidement à la présentation de la menthe, qui a une composante tactile très irritante. Nos enfants anosmiques répondent souvent uniquement, bien sûr, à la menthe, avec soit une activité qui s'accentue, soit qui cesse. Enfin, j'ai une information sensorielle que je peux traiter. Donc l'odorat dans les apprentissages, dans les liens et les apprentissages. L'aura nous fait vivre émotionnellement et est un puissant évocateur. L'odorat nous permet de nombreuses discriminations, la continuité entre le monde amniotique et le sein maternel, sa propre odeur corporelle, l'odeur de ses proches, l'odeur des pièces de la maison, son lien indissociable avec le goût. La gustation, elle, est aussi fait partie de la sensibilité chimique, c'est la sapidité. Elle n'est ressentie que si l'aliment est mouillé. C'est un sens de proximité renforcé par les sensations tactiles et thermiques, produit par tout ce qui est incorporé dans la cavité buccale et par le son, le croquant des fruits, le craquant des biscuits. Essentiel pour nos enfants anosmiques. Il ne permet ni reconnaissance, ni représentation de forme de l'objet de façon perceptive tridimensionnelle. S'il est plus grand que la cavité buccale, il est nécessaire de le mettre en bouche. Le rôle du réflexe nauséeux et de sa désensibilisation sont des paramètres essentiels. Et essentiels chez nos bébés présentés en syndrome de Demorcier. Diamo.
Là, je crois que vous avez eu un exemple formidable de la qualité de l'observation de Régine et de sa façon de lier l'observation sensorielle à l'observation fonctionnelle. Et je crois que c'est vraiment un élément extrêmement riche de sa présentation. Enfin, je ne suis pas là seulement pour lui jeter des fleurs, mais parce que moi-même, j'ai découvert beaucoup de choses en l'écoutant. Et je trouvais que du moi peau au moi sonore, et même au moi olfactif, elle nous permet de faire justement des pas en suivant peu à peu toutes les difficultés de ces enfants. Et le syndrome de Demorcier est une configuration extrêmement particulière puisque justement, c'est tous ces objets-là, c'est tous ces sens-là qui manquent. Donc, c'est particulièrement intéressant, et c'est intéressant aussi pour l'empathie que ça provoque, que ça ne provoque pas chez le professionnel. Quand elle dit que, par exemple, la biscotte doit à la fois être un goût particulier, une fusion particulière dans la bouche et un son, ça montre à quel point c'est extrêmement subtil de se mettre à la place de ces enfants et d'adapter des propositions pédagogiques, éducatives appropriées.
Donc dans la septième partie, je vais faire une partie sur l'approche intégrative du développement. Donc, dans un premier temps, j'ai fait les premiers, je viens du monde médical, donc les réflexes qui donnent une dynamique développementale. J'ai pris pour exemple un réflexe qu'on connaît bien, c'est le réflexe pupilleur, photomoteur, iridoconstricteur, qui est la contraction de la pupille. Il nous protège de l'éblouissement et il nous permet une meilleure perception. Vous voyez ça chez vos amis myopes qui ne portent pas leurs lunettes, qui sténopéisent, ou sinon ça augmente la profondeur de champ. Sur la zone orale, les réflexes des points cardinaux, on touche un bébé, il va aller orienter la tête, ils permettent effectivement d'amener la bouche vers l'aliment, mais il y a le réflexe nauséeux qui, lui, va protéger, parce que ce que vous mettez en bouche et que ce n'est pas très bien et que c'est sur le bord des lèvres, l'enfant ne va pas l'ingérer. Vous mettez le sein ou la tétine sur le bord des lèvres, ça ne marche pas. Il faut aller plus profond, il faut passer. Voilà. Donc, il va nécessiter une désensibilisation chez tout le monde, nous tous. Et le réflexe de succion qui lui permet de se nourrir quand la tétine ou le sein ont été plus loin. La zone palmaire. La main, dans sa fonction perceptive déjaugée, la capacité tactile. Le réflexe de préhension, ou grasping, qui est un réflexe archaïque de fermeture de la main, survenant après stimulation par friction et effleurement. C'est génial, il permet l'agrippement. Mais durant l'agrippement, les mouvements d'exploration ne peuvent être que très réduits. Le réflexe de retrait, ou réponse d'évitement, qui est un réflexe d'écartement et d'ouverture de la main, il existe dès la naissance et atteint son plein développement entre 20 et 40 semaines. Il protège, mais va falloir aussi le désensibiliser. Et un bébé ne va pas pouvoir tout faire à la fois, un bébé déficient. Alors, il y a aussi les capacités du cerveau fœtal. Il peut encoder, extraire et reconnaître des invariants sensoriels multiples, ce qui rend certaines caractéristiques de l'environnement postnatal prédictibles pour le nouveau-né dans la mesure où ces mêmes entrées sensorielles sont émises par ou autour de l'organisme maternel. La continuité relative des stimulations périnatales est sans doute un des éléments essentiels dans l'expression de réponses adaptées chez le nouveau-né. Les bébés porteurs du syndrome de De Morsier manquent de ces premiers organisateurs.
Bien entendu, on ne sait pas ce qui se passe pour eux dans la vie fœtale.
Et dans la vie fœtale, déjà, normalement, c'est vraiment un bébé tactile. Ensuite, un bébé qui répond à la chimiosensorialité, donc à l'olfaction. Ensuite, il va répondre à l'audition. Il va apprendre à avoir une super capacité à mettre la main à la bouche. Voilà. Puis la vision, on va dire, il faudrait se mettre vraiment une grosse, grosse lampe sur le ventre pour avoir des lueurs. Sinon, il a des autoflashs, mais ça, c'est autre chose. Voilà. Et à la sortie, il lui manque tout ça. Alors, les apports d'André Bullinger, c'est les premiers apports que je voudrais vous présenter. L'enfance n'est pas un état, mais c'est un processus. L'enfant porteur d'un déficit consomme une très large partie de ses ressources de plasticité pour contourner ou dépasser son déficit. Le fonctionnement relève des interactions matérielles que l'organisme entretient avec le milieu. Quelles sont les voies prioritaires ? L'essence. L'activité psychique peut être comprise comme une extraction des invariants, des redondances et des régularités produites par les interactions qui se déroulent entre l'organisme et les autres objets du milieu. C'est un développement programmé. Voilà. Nous passons d'un monde utérin à la naissance, un monde aérien, gravitaire, où on va apprendre à maîtriser petit à petit, dans un schéma préprogrammé temporellement, nos espaces. L'espace oral, autour de la bouche, l'espace du buste avant-arrière, basé sur nos capacités visuelles, les bases de la maîtrise du torse qui va nécessiter à la fois la vision, le passage par la bouche et pivoter sur son axe, et ensuite la maîtrise du corps avec la bascule du bassin. Eh bien, nos bébés aussi, nous ont appris Monsieur Bullinger, ils ont besoin de contenance. Et ce besoin, habituellement rempli par les sens, avec une suprématie de la vision et par l'adulte, n'est pas satisfait chez les enfants porteurs d'un syndrome de Demorcier. Le bébé va donc aller chercher le chercher avec les moyens à sa disposition à un âge donné, soit de façon autarcique, par des mouvements incessants, qui sont des proto-représentations qui n'existent que durant le mouvement. Je me sens en mouvement parce que je suis en train de le faire, sinon je m'effondre. Balancement, mouvement de la tête, sautillement. Et tout ceci le rend indisponible aux autres sollicitations et à la poursuite de ses schémas de développement. Soit au contraire, il va s'agripper à l'adulte, et ce que j'appelle un bébé koala, où il va être collé contre nous. Des fois, c'est hyper satisfaisant, mais alors c'est pas bon du tout, parce qu'il ne va pas aller explorer. Le besoin de contenance, eh bien, je vais vous donner quelques vignettes cliniques. Alors déjà, à propos de la contenance dans le lit, comparaison entre Laurent, porteur d'un syndrome de Demorcier, et Joshua, qui a des cornées porcelainées, donc qui perçoit la lumière et qui est capable maintenant de l'orienter. Donc Laurent, eh bien, a des très 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 mauvaises nuits. Qu'est-ce qu'il a été nécessaire de faire? Eh bien, nous avons travaillé avec sa maman, puis son assistante familiale. Actuellement, il a 2 ans, et il a 2 traversins dans le lit. Voilà. Donc, il est bien calé. Vous savez, comme à la maternité, nos bébés qui vont aller chercher la paroi utérine et puis qui vont aller chercher la paroi du couffin. Voilà. Donc, lui, bien contenu, fait de longues nuits. Il est bien. Différence avec Joshua. Joshua a 18 mois. Au départ, eh bien, dans le lit, on a mis un traversin. Il n'a pas été très efficace. On a mis la chemise de nuit de sa maman. Elle a été très, très efficace. Et maintenant, à 18 mois, il a sa propre gigoteuse et son propre odeur, et ça va très bien, il n'a besoin de rien d'autre. Hein. Et on peut le considérer comme un enfant aveugle. 5 minutes, ça ne va pas le faire. Je vais passer à autre chose. Donc, je vais vous présenter ce que je peux en ce temps-là. Donc, dans les besoins de contenance, c'est la vignette clinique d'Hugo. Donc, tout d'un coup, pour lui, on a vu apparaître les sons. Les sons, c'est l'émission. Ce n'est pas le nausée où je vais essayer de manger quelque chose. Donc, il y a des pulsions de développement. Donc, on a vu apparaître les sons, puis la répétition des mots, des chansons. Le système récent, les praxio-pronatoires, ça se met en place. Puis, il y a eu un arrêt des émissions vocales à la marche. Puis, quelques mots hors contexte, et qui se contextualisent un tout petit peu actuellement, il y a 6 ans. Pouvons-nous penser que ces vocalisations, émissions, ont une fonction de remplissage, faisant fonction de contenant interne? Il se gargarisait, une fonction d'enveloppe sonore pour former la peau auditivo phonologique. Très précocement, Hugo s'est rempli l'estomac en buvant beaucoup, sans diabète insipide. Contrairement, je vais vous parler de Nicolas. Nicolas, porteur d'une amoureuse de Lébert, avec une perception lumineuse paracentrale avec un peu de vision des couleurs au bout de quelques années. Eh bien, lui, tout petit, c'était génial. J'avais été le voir à la maison. Il avait 3 tracteurs des Playmobil, un rouge, un bleu, un vert. Il ne pouvait absolument pas voir les couleurs. Par exemple, à chaque fois qu'il faisait tomber sur le parquet, il pouvait me dire lequel c'était. Il avait été dénommé par la couleur. Plus grand, ce qu'il a été capable de faire, c'est de mettre une enveloppe sonore qui lui convenait. Donc, dans la maison, on écoutait du Brassens, donc il se mettait du Brassens. Actuellement, Nicolas va très bien. Il a trouvé un équilibre dans toutes ses fonctions. Il est en terminale. Ces enfants, porteurs de déficience, fonctionnent en mosaïque dans un état de perte permanente où la consolidation des acquis ne s'inscrit pas ou très lentement.
Tu veux dire quelque chose?
Oui, je peux juste ajouter que là aussi, je voudrais attirer votre attention sur qu'est-ce qu'on appelle le besoin de contenance. Parce qu'on a l'habitude, et elle le dit très bien, de penser que prendre un enfant dans les bras, ça suffit pour le contenir. Mais ça ne suffit pas. Et je trouve que les cas cliniques qu'elle présente nous enseignent que la contenance doit aussi être une contenance interne. Par exemple, les mots à l'intérieur de la bouche peuvent aussi servir de contenant et pas seulement de moteur de communication, de vecteur de communication. C'était un peu la même chose pour la biscotte. Hein. C'est-à-dire que ce qui est extrêmement complexe, c'est de ne pas avoir des visions préfigées de ce que peut être la contenance, mais de réfléchir avec l'observation autour des enfants pour essayer de comprendre de quel type de contenance ils, d'abord quel type de contenance ils se donnent et quel type de contenance ils ont besoin. Voilà, je voulais juste insister là-dessus parce que je trouve que cette idée de la contenance interne et de la manière dont l'enfant construit quand même une contenance interne, elle est extrêmement importante et il faut la respecter.
Je vais voir, je ne sais plus où j'en suis.
Alors, tu en es à lecture. Que se passe-t-il quand l'équilibre est systémique? Ça, c'est bien.
Je fais ça?
Et tu, oui, puis après, je pense que c'est bon.
D'accord.
On gère le temps.
Oui,
donc,
mais...
Que se passe-t-il quand l'équilibre entre les systèmes archaïques et récents ne se réalise pas? Eh bien, l'agrippement. Il n'y a pas de construction de l'espace et pas d'exploration. Outre, de façon récente, les stéréotypies. Le geste s'organise, mais n'est dédié qu'au mouvement pour eux-mêmes. Alors là, je vais donner aussi deux vignettes cliniques. Hugo est la mise dans la bouche de gros objets sans exploration. Actuellement, c'est ce qu'il fait. Et vignette clinique. Alors, Hugo, porteur d'un syndrome de De Morsier. NS, porteur d'une dystrophie Rodcon extrêmement précoce. Un enfant koala dans les bras, l'agrippement, se déplaçant en marchant d'un mur à l'autre, stéréotypie, en faisant du moins muscle pour sa contenance. Voilà. J'ai un diaporama pour tenir encore une demi-heure sur toutes les autres contenances et sur un bébé, voilà. Bon, c'est très dommage, voilà.
Bon, merci pour cette intervention. Alors, c'est vrai que vous êtes venu avec deux experts, donc votre collègue et puis André Bullinger. Donc,
oh, oui, il y avait d'autres experts.
Voilà, je ne sais pas s'il faut.
Merci André. Ouais.
Est-ce
j'en
que
plein
notre expert aurait peut-être.
Alors, tant qu'ophtalmo, bien sûr. Je n'ai été que très sensible à vos présentations. Alors, c'est vrai qu'on a des syndromes de Morsier ou des syndromes apparentés tous dans nos institutions. Moi, j'en suis, je pense que vous en suivez aussi. Je trouve que ça fait pour moi, en tant qu'ophtalmo et médecin coordinateur de soins, très écho aux prises en charge très précoces des bébés. Pouvoir les avoir très très tôt, de façon à essayer de les accompagner dans l'inter- et la transmodalité. Il y a quelques années, comme beaucoup d'ophtalmos, je pensais que dès qu'il y avait un tout petit soupçon visuel, on se précipitait dessus. On stimule au max, on stimule au max, et on essaye de mettre en place le premier rôle de la vision, cet échange de regards affectifs qui va nous soutenir le développement de l'enfant, puis voir si ça aide à la tenue de tête, au tonus musculaire, puis après le décodage. Finalement, dans la vision, même en tant qu'ophtalmo, la vision appréhension de l'environnement arrive assez tard. Et puis c'est vrai qu'il y a eu d'autres travaux qui sont arrivés, en particulier ceux de Chantal Milleray, entre autres, qui ont été très importants pour moi dans la mise en place de ces transmodalités. Qui elle a bien montré actuellement que, eh bien, soit cette bascule vers les sens compensatoires et vers l'exploration du monde est aidée, je vais essayer de vous transmettre ça un peu facilement, par une stimulation visuelle très précoce quand elle peut se mettre en place, soit on s'est rendu compte que chez certains enfants, le fait d'hyperstimuler la vision parfois peut bloquer, à cause d'histoires d'organisation cérébrale qui restent en place au point de vue visuel, par des organisations en tâches et en intertâches, et bien parfois la transmodalité a beaucoup plus de place à se mettre en... Voilà. Et du coup, la grosse question, je trouve, qu'on se pose dans les équipes actuellement, on revient vraiment à des... Enfin, je ne sais pas si vous allez... On va échanger là-dessus, j'espère, pour faire ces projets d'enfants multidisciplinaires. C'est vraiment l'observation très précise, très clinique, avec des films ou autres, je ne sais pas comment vous faites, pour savoir quel est le sens que l'on va donner. Est-ce que la vision doit être stimulée ou pas, alors qu'avant je vous aurais dit oui à tous les coups? Est-ce que l'appréciation du toucher, est-ce que le bain auditif doit être contenu, doit être limité ou pas? Est-ce que la proprioception, où est la place de la proprioception, j'allais dire du sens vestibulaire, du sens vibratoire, etc., etc. Et on arrive à des projets qui deviennent un petit peu différents de ce que je faisais moi il y a 10 ans, par exemple.
Bien, moi je vais placer du côté du psychologue. Alors André Bullinger, bien sûr, mais on est très sensible à un processus qu'on appelle l'attachement sécure, l'attachement sécure du bébé, qui dans cette situation...
Non.
Bien sûr.
C'est tout ce que j'ai
oui,
pas
mais
pu dire.
Vous l'auriez dit, mais... Donc on va le dire tous les deux, alors. Hein, c'est-à-dire que moi, en tant que psychologue, et je voudrais faire cette remarque, dans l'examen opératoire du bébé, je vais chercher ses compétences. Et même dans la situation, on est dans une situation de déficit important. Et pour trouver ses compétences, il faut qu'on soit nous-mêmes dans une situation, comme vous disiez, d'empathie un peu particulière, mais dans un environnement aussi qui permet à ce bébé de nous présenter, de nous révéler ses compétences. Et je pense à des environnements snoozélènes que vous utilisez. Enfin, j'avais vu ça aussi récemment à Isère. Eh bien, dans cet environnement-là, alors certains bébés, même des bébés très déficitaires, vont nous présenter un peu ses compétences. Et l'examen opératoire va faire sortir ses compétences sur des travaux, sur cette sensorialité dont vous avez parlé, sur lequel il faudrait revenir très longuement dans chacune des parties. Et ce qui nous manque des fois dans les structures petite enfance, c'est justement d'avoir des grands spécialistes. Hein. Donc à Lyon, par exemple, on a sollicité l'équipe de recherche du CNRS qui travaille sur l'olfaction pour mieux comprendre ces phénomènes liés à ça, le fonctionnement haptique, etc., etc. Donc on se rejoint tout à fait. Je vous remercie un peu de cette intervention. Et puis on va solliciter nos intervenants peut-être par des questions, des remarques, des commentaires sur ce qu'elles viennent de dire.
Ces prises en charge des bébés sont souvent inter- et multidisciplinaires, puisque souvent les SAFEP, comme elle vous l'a décrit, ou les CAM sont au premier plan. Mmh. Et puis après, quand il y a des handicaps associés, très vite, au bout de 3-4 ans, on va les orienter aussi vers d'autres structures.
Hein. Nous, on a ce qu'il faut dans la structure.
Tout se passe dans la structure.
Exactement ça.
Est-ce qu'on a d'autres expériences sur ces stimulations très précoces?
Je suis responsable de service petite enfance hein, dans un institut pour déficients visuels.
Oui.
CAM, c'est SAFEP, voilà. Donc, je peux que souscrire à la présentation qui a été faite. Ce qui est dommage, c'est que vos collègues médecins ophtalmo n'envoient pas assez précocement les
Tout
enfants.
Tout à fait. Alors,
et que depuis 20 ans, voilà, que ce SAFEP existe, on a de moins en moins d'enfants qui arrivent vers le SAFEP et ils n'arrivent pas plus au CAM, ça. Donc, ils arrivent plus tard.
Alors, je vais prêcher pour ma... C'est vrai que nous, j'ai ma directrice là, quand même, je peux parler. C'est vrai que moi, je les ai très précocement. La plus jeune que j'ai eue, elle avait 15 jours. Parce que, voilà, parce que... c'est vrai qu'il y a une culture des liens entre ophtalmo qui doit se faire avec les hôpitaux, quoi. Hein, les enfants ne sont pas orientés par la MDPH, c'est pas vrai. Pour les tout-petits, ça vient soit des hôpitaux, soit des PMI, soit des pédiatres. Hein. Il y a un travail de lien et de réseau qu'il faut faire, parce que sans ça, si on nous les envoie trop tard, enfin, les périodes critiques, sensibles, vous connaissez toute votre physiologie, si on passe trop tard, c'est trop tard. C'est trop tard. Alors après, ça, c'est le premier point. Après, le deuxième point, et là, je suis soutenue, c'est d'embêter les MDPH, quoi. Parce que si j'attends les notifications pour prendre en charge les bébés... Oui. Et moi, franchement, nous, j'ai pas de problème. Hein. Les bébés, j'ai toujours pu les prendre très tôt. Hein. Alors... Quand on vous les adresse trop tard, oui. C'est vrai que moi, j'ai la chance qu'on me les adresse très tôt. Et du coup, j'ai la chance de pouvoir réfléchir avec l'équipe. Et parfois, j'ai des grandes discussions avec... j'ai des psychomotriciens. Je peux vous dire qu'avec les orthoptistes aussi, j'ai des grandes discussions. Hein. Est-ce que telle ou telle modalité sensorielle, est-ce qu'on passe au multisensoriel, est-ce qu'on fait un sens après l'autre? Le snozélène, c'est très bien, mais parfois, c'est beaucoup trop. Parfois, on a des enfants débordés par le multisensoriel. Parfois, il faut séquencer. Parfois, il faut au contraire essayer de les accrocher par du multisensoriel. C'est une réflexion de c'est, il n'y a vraiment pas... la spécificité de chacun est énorme. Et je pense que, par contre, on n'en est pas encore au stade où on arrive suffisamment à réfléchir ensemble pour savoir... voilà, ce n'est pas encore conceptualisé. Alors, les ophtalmos commencent quand même. On a une association, je vais faire la pub, on a une association, je ne sais pas si vous connaissez, qui s'appelle Ordvie, ophtalmos référents déficients visuels. C'est la seule qui existe, on est une vingtaine, ça n'a pas aucun rapport. Oui, c'est tout. C'est des ophtalmos qui sont tous spécialisés dans le déficit visuel de l'enfant qui se sont regroupés. Et donc, on échange sur Internet nos pratiques. Voilà, on existe depuis 2 ans, donc ce n'est pas beaucoup, hein, ça n'a aucun rapport avec l'ARIBA dont je m'occupe aussi. Il faut savoir que les ophtalmos commencent à s'y penchée. Dans 2 ans, le rapport de la Société française d'ophtalmo va être l'ophtalmopédiatrie. Et là, pour une fois, ils ont pensé à faire tout un chapitre sur l'enfant handicapé, ce qui est une grande première chez les ophtalmos. Alors, bon, on met beaucoup de temps à le faire, mais ça commence à venir. Ça commence, mais ça fait 20 ans.
Si je peux me permettre, sur la prise en charge précoce, c'est sûr qu'il faut que les circuits soient plus courts entre la détection d'un handicap et la prise en charge. Mais on peut bien imaginer aussi qu'il y a le poids psychologique de l'annonce pour les parents et que ça a aussi une incidence sur les prises en charge. Je crois que dans un des flashs, Régine disait comment annoncer. Mais on sait très bien que là, c'est quelque chose qui est considérablement difficile. Et dans l'exemple de tout à l'heure, il y a un diagnostic qui arrive à 13 ans. Donc vous voyez bien qu'on connaît tout ça, à quel point justement il y a des barrages, peut-être des professionnels, peut-être des parents, peut-être d'une situation un peu aberrante, qui fait que l'annonce du diagnostic peut être aussi tardive. Donc ce que je veux dire par là, c'est que bien sûr qu'il faut plaider en fonction pour les circuits courts, mais il y a des choses qu'on ne peut pas non plus complètement éviter. Et l'histoire de la petite Lio que tu as eue à 27 mois, finalement, montre bien. Et ce qui était aussi très intéressant dans le cas de Lio, c'était aussi toutes les régressions de cet enfant. C'est-à-dire qu'aussi les acquis qui sont obtenus par la rééducation sont des acquis fragiles. Alors qu'on peut bien imaginer que pour d'autres tableaux de déficience visuelle, les acquis se consolident un peu mieux. Donc il y a plein de facteurs qui sont très complexes.
Effectivement, on est à la fois le déficit visuel, puisque la vision ne va pas tout refaire, hein, vous le savez bien. La mise en place de la vision fait qu'on va être pris par les étapes critiques de développement du cerveau, il faut les prendre tôt, pris par la temporalité, on en parlait tout à l'heure, du temps de l'annonce, hein. Dire aux parents, vous allez avoir l'orthoptiste qui va venir une ou deux fois par semaine à la maison quand ils ne sont pas prêts, mais c'est bien trop violent. Hein. Et donc, on va être toujours, toujours entre les deux, hein, c'est sûr. Hein.
Bien, bah écoutez, on remercie encore toute l'équipe du CRDV de Clermont pour leur intervention, puis pour votre intervention. Merci. Bien, on va donner maintenant la parole à une autre équipe conjointe, les équipes du tremplin, du CESAD.
C'est une seule équipe.
Comment ?
C'est une seule équipe.
Une seule équipe, pardon, du tremplin, du CESAD et du CAMS polyvalent d'Evry.
C'est le CESAD du tremplin qui va vous exposer le travail qu'elles font avec les CAMS qui sont tout autour.
D'accord, merci.
C'est mieux ou pas ?
Ok, attends. Non, c'est là. Donc bonsoir à tous, je suis Anaïs Bonmartin, je suis psychomotricienne au CESAD Le Tremplin.
Peut-être parler plus près du micro, peut-être, voilà.
Voilà, peut-être qu'on m'entend mieux comme ça.
Oui, très bien.
Voilà, donc je suis psychomotricienne au CESAD Le Tremplin, qui a un SAFEP S3AS, à Évry.
Et donc Séverine Becker, éducatrice de jeunes enfants du service du CESAD Le Tremplin.
Donc on est venu vous présenter en fait... deux cas cliniques, on va dire, autour de l'accompagnement et du multipartenariat et la façon dont on aborde le projet avec nos partenaires. En l'occurrence, ce soir, ça sera un CAMS.
Polyvalent.
Voilà. Brièvement, on va présenter le CESAD. Donc nous, on est un service de soins à domicile qui accueillons des enfants déficients visuels avec troubles associés essentiellement de 0 à 20 ans. Voilà. Donc, dans un premier temps, nous allons vous proposer de rencontrer David, un petit garçon de 5 ans, suivi par le CESAD depuis février 2013. Donc là, la diapositive, c'est plus pour, au niveau du plan, vous donner une globalité de ce dont on va aborder ce soir. Donc, David vit actuellement avec ses parents et est scolarisé à temps plein en grande section de maternelle avec une AVS. Il reste pour l'instant le seul enfant du couple. Ce petit garçon est né avec une maladie génétique héréditaire dont sont porteuses de nombreuses personnes de sa famille du côté maternel, la neurofibromatose de type 1. Donc cette pathologie génétique est assez fréquente puisque la prévalence est de 1 cas pour 4000. L'expression de cette maladie est très variable d'une personne à l'autre et elle se manifeste principalement par la formation de neurofibromes, donc qui sont des tumeurs qui se développent le long des nerfs, du fait du dysfonctionnement d'un gène suppresseur de tumeurs. Tout au long de sa jeune vie, David a subi une dizaine d'opérations chirurgicales et de nombreux traitements, dont notamment de la chimiothérapie. Donc, au niveau de la neurofibromatose, quelles conséquences cette maladie va avoir ? Donc, du fait de cette maladie évolutive, David présente une déficience visuelle, un retard de développement psychomoteur, des troubles de l'élocution dus à une faiblesse musculaire de la sphère orofaciale et des troubles des apprentissages. Donc, sur le plan visuel, David présente une amblyopie avec un glaucome multiopéré sur l'œil droit et un champ visuel amputé au niveau de l'œil gauche, conséquence d'un gliome des voies optiques. Donc là, on voit le champ de Goldman, le tracé du champ visuel, qui est donc... j'en parle un peu plus tard. Donc, sur le plan fonctionnel, il a mis en place des stratégies d'exploration visuelle oculomotrice satisfaisantes. La fixation, les poursuites et les saccades sont possibles. La coordination oculomanuelle est mise en place de façon efficiente. L'acuité visuelle à droite est inférieure à 1 cinquantième. À gauche, elle est évaluée à 0,6 logmar à 50 cm au Cardiff test, ce qui correspond environ à 2,5 dixièmes en vision de loin, et correspondant P6 en vision de près, et à R6 à une distance de travail de 10 cm. La vision des couleurs est difficile, il y a une confusion entre le rouge et le vert, même si la distinction du bleu et du jaune est possible. Donc, lors de la dernière consultation ophtalmologique, un net rétrécissement du champ visuel a été évalué en double confrontation. Le champ visuel intentionnel est limité à 20 degrés. L'amputation est significative sur le champ visuel inférieur, donc comme on peut le voir sur la diapo. Donc, au niveau de la consultation ophtalmologique, quels tests ont été proposés donc, à David ? Tout au long, en fait, au CESAD, il y a une consultation ophtalmo annuelle ou à des délais plus courts, on va dire, en fonction des besoins des enfants. Et donc, pour David, a été proposé, tout au long de ces consultations, le Léa test, le Cardiff test, le Château de la Bro, donc un examen du champ visuel en double confrontation, et le bébé vision lorsque David était plus jeune. Donc, pour vous donner un ordre d'idée, David est accueilli dans diverses structures, donc hôpitaux, écoles, CAMS et CESAD, qui accompagnent toute la famille dans leur projet de vie d'une manière différente.
Voilà. Donc maintenant, moi, je vais vous présenter le cas de Fatoumata, qui a 6 ans. Donc, Fatoumata est arrivée d'Afrique en France en urgence à l'âge de 5 mois, pour une opération d'une hydrocéphalie. Elle est venue sans ses parents et après de nombreuses interventions chirurgicales, elle a été accueillie au domicile de ses grands-parents et de ses oncles et tantes sur la région parisienne. Après 2 ans, seule sa mère l'a rejointe en France et la figure maternelle a longtemps été la grand-mère. Fatoumata est entrée en crèche à l'âge de 3 ans. Elle y est restée une année avant d'intégrer une classe 4 maternelle, donc classe d'intégration pour une déficience motrice. Elle y est restée pendant 3 années. Au jour d'aujourd'hui, elle est accueillie à temps plein sur un institut d'éducation motrice, donc elle ne fait plus partie du CESAD Le Tremplin à aujourd'hui. Elle vit actuellement chez ses grands-parents avec sa mère et 2 petits frères qui sont nés par la suite. Et à ce jour, elle n'a jamais rencontré son père et sa grande sœur qui vivent toujours en Afrique. Voilà. Donc, par rapport à l'étiologie, son hydrocéphalie a apporté des conséquences avec des séquelles motrices, neurologiques et sensorielles. Donc, sur le plan visuel, Fatoumata présente une cécité d'origine cérébrale.
son acuité est inférieure à 1/20 sur son œil gauche fixateur. Il y a une présence d'un petit potentiel de vision fonctionnelle sur l'œil gauche préférentiellement en champ visuel inférieur. Il n'y a pas d'identification possible de forme ou de couleur, mais la coordination oculo-manuelle est quand même possible. Le repérage visuel est possible jusqu'à environ 30 cm. La fixation visuelle est intermittente et la poursuite oculaire est non endurante. Sur le plan moteur, Fatoumata présente une quadriplégie spastique prédominante du côté droit. Elle a un équilibre précaire en station assise. Les déplacements au sol ne se font qu'à quatre pattes, sans dissociation des membres inférieurs. Et l'atteinte des membres supérieurs empêche une motricité fine, sa préhension restant globale. Sur le plan neurologique, Fatoumata présente un retard global des apprentissages. Donc Fatoumata, en fait, elle a été accueillie après ses interventions chirurgicales à l'hôpital par le CAMSP, dont le médecin à l'hôpital a parlé d'une possibilité d'être accueillie sur le CAMSP polyvalent près du domicile des grands-parents. Donc là, on va vous parler des... Quel projet de vie a été pensé pour ces enfants dont il y a un travail en partenariat. Donc, lorsque le CAMSP s'aperçoit dans l'accompagnement de l'enfant qu'une déficience visuelle est présente, le médecin référent adresse l'enfant à l'ophtalmologiste du CESAD pour une consultation externe. Cette consultation permet à l'ophtalmologiste de diagnostiquer la malvoyance et de dire à la famille et aux partenaires si cette pathologie rentre dans l'agrément du CESAD. Donc, on a un agrément où on prend les enfants si l'acuité visuelle est inférieure à 4 dixièmes. Par la suite, les deux médecins se mettent en lien pour convenir soit d'un partenariat, si celui-ci est nécessaire, soit d'une orientation complète sur le CESAD, le tremplin. Dans le cadre d'un travail conjoint, une convention de partenariat est signée entre le CESAD et le CAMS. On a mis une illustration en fin de diapositive des conventions qui ont été faites pour David et Fatoumata. Les professionnels ensuite paramédicaux, éducatifs se rencontrent et peuvent participer à des séances pour faire le relais si nécessaire. Mais on s'aperçoit que les divers acteurs du projet de vie de l'enfant ont chacun leur spécificité. Le CAMS et le CESAD sont tous les deux spécialistes de la prise en charge du handicap, mais sur deux versants distincts, mais souvent complémentaires.
Donc là, on va revenir sur le projet de vie de David. Donc, quels sont les objectifs du CAMS et du CESAD? Sont-ils communs? Comment sont-ils élaborés? Et quels moyens sont mis en place? Donc, David est suivi par un CAMS depuis septembre 2011. Il bénéficie actuellement d'une psychothérapie avec une psychologue, d'un groupe autour du langage animé par deux orthophonistes et d'un accompagnement en pédopsychiatrie conjointement avec sa mère pour un travail de guidance et de coordination. Du fait de l'expression de la maladie chez la mère, puisqu'elle présente la même maladie que son fils, mais différemment au niveau de l'expression, donc elle a des troubles de la concentration et de la compréhension, elle se montre parfois en difficulté pour s'adapter à son fils et à ses capacités. Le travail de guidance parentale prend alors tout son sens sur la problématique du lien mère-enfant. L'équipe du CAMS a travaillé l'orientation de David sur le CESAD du fait de ses difficultés visuelles. Il a ainsi été reçu en consultation ophtalmologique externe après des échanges de médecin à médecin en novembre 2012 et admis sur le service en février 2013. Dès février 2013, les deux équipes se sont rencontrées pour faire le point sur les accompagnements possibles sur le CESAD et sur ceux proposés sur le CAMS. De même, nous nous rencontrons une fois par an pour préparer donc l'équipe de suivi de scolarisation qu'on appelle une ESS qui a déjà été évoquée sur une autre présentation, afin de soutenir au mieux la famille dans l'intégration scolaire de leur fils. Nous nous réunissons également pour faire le retour des projets de chaque structure et faire le point sur les adaptations visuelles nécessaires et l'évolution du potentiel visuel de David.
Donc maintenant, je vais retourner sur les objectifs du CAMS et du CESAD pour mettre en place le projet de vie de Fatoumata. Donc, lorsqu'elle a été reçue au CAMS par l'ophtalmologiste... Ah, la diapo... du service. Donc on s'est retrouvé avec le CAMS pour échanger Et elle est donc rentrée sur le service dès janvier 2010. On a échangé pour essayer de faire un montage sur le projet de vie de Fatoumata. Il a été dit, selon les médecins référents, donc OCAMS, qui était un médecin de rééducation fonctionnelle, et l'ophtalmologiste sur le CESAD, il a été décidé que Fatoumata serait pris en charge au CAMS sur un versant rééducation motrice et au CESAD sur un versant de rééducation visuelle et un travail de guidance parentale. Donc au CAMS, elle avait 2 séances par semaine en kinésithérapie et des consultations avec le médecin de rééducation fonctionnelle pour un suivi, une adaptation du matériel orthopédique. Et sur le CESAD, elle a bénéficié de séances en orthopsie, en psychomotricité, en éducatif et une guidance parentale qui s'est mise en place quand la maman est venue en France pour retrouver sa fille. Donc suite à cette répartition des soins entre les deux institutions, les équipes en fait, se rencontrent très régulièrement pour faire des bilans sur les accompagnements, sur l'emploi du temps de Fatoumata et de réajuster certaines prises en charge, si besoin. Donc ce temps d'échange, je pense, est primordial pour éviter de morceler le projet de vie de Fatoumata et d'avoir une vision globale de l'enfant. Donc, vas-y.
Bon, même si, en fait, il y a un compte-rendu de chaque rencontre qui est consigné dans la partie partenariat du dossier de l'enfant au CESAD, pour l'instant, le projet individualisé d'accompagnement n'est pas mutualisé. Donc, au niveau du CESAD, comment est-ce qu'on met en œuvre le projet ? Le projet initial est élaboré en réunion suite à une période d'observation, chaque professionnel ayant effectué un bilan sous prescription du médecin ophtalmologiste. Un projet est élaboré en équipe pluridisciplinaire et proposé à la famille. Chaque année, le projet est réactualisé suite au recueil des attentes des parents et de l'enfant, si possible, par le référent de l'enfant, et également après la consultation ophtalmologique annuelle en équipe. Donc en fait, sur le CESAD, on a une notion de référence qui a été mise en place il y a un peu plus d'un an maintenant, où donc le référent est l'interlocuteur privilégié de la famille et porteur, on va dire, du projet, sous le sens où il connaît très bien le projet de l'enfant et fait le lien avec les différents partenaires, donc que ce soit les CAMS, les libéraux, l'école, et ensuite on participe également aux consultations ophtalmo, où là on peut aussi faire le lien avec les différents intervenants hospitaliers. Donc, lorsqu'un enfant est accueilli en partenariat, les professionnels prenant en charge l'enfant participent à une réunion en amont de la synthèse pour réfléchir à un projet en cohérence avec l'équipe partenaire. Le CESAD travaille également donc, en partenariat avec tous les lieux d'accueil de l'enfant, donc l'hôpital, la crèche, l'école. Donc, pour David, actuellement au CESAD, David bénéficie d'un suivi hebdomadaire individuel en psychomotricité, en AVJ, voilà, en AVJ et en orthopsie. Il participe également avec son grand-père et ponctuellement avec sa mère à un groupe enfants et parents dans l'eau à la piscine municipale d'Evry. Nous sommes aussi amenés à travailler avec les autres partenaires que sont l'école et les différents hôpitaux. Chaque année, une consultation multidisciplinaire est organisée par l'Institut en cancérologie, où nous sommes invités à participer. David est suivi par une multitude de médecins, dans 4 hôpitaux différents. Un oncologue, un neurochirurgien, un généticien, un ophtalmologue, qui est différent de l'ophtalmo du CESAD. Donc, un médecin de rééducation fonctionnelle, un dermatologue, un ORL et un chirurgien maxillofacial. Donc, la coordination du suivi médical et thérapeutique est assurée par l'oncologue et la pédopsychiatre du CAMS. Donc, du côté de l'école, nous rencontrons régulièrement l'équipe pédagogique, donc enseignante et AVS, pour favoriser l'adaptation des supports scolaires. Nous participons également aux ESS en présence de la famille et de l'enseignant référent afin d'élaborer le projet d'accueil individualisé de David.
Donc, en ce qui concerne Fatoumata, durant les 5 ans d'accompagnement sur le CESAD, Fatoumata a donc eu 5 projets différents qui ont évolué à son rythme, puisqu'on réactualise les projets tous les ans. Elle a bénéficié donc d'orthopsie au début de son accueil, puis les séances ont cessé après la 3e année, sous prescription de l'ophtalmologiste. Elle a également, lors des 5 années, eu des séances de psychomotricité et d'éducatif, qui ont également évolué au fil du temps. Au départ, quand elle était très jeune, bébé, au niveau précoce, on a proposé à Mariama des séances en 4 mains. Et puis ensuite, les séances en psychomotricité sont devenues en individuel. Et l'éducatif était plus sur un versant d'ouverture sur l'extérieur, puisqu'elle commençait à grandir. Donc l'accueil en crèche, puis le travail de l'intégration à l'école. Et de plus, par les difficultés de la relation mère-enfant, puisque la maman, quand elle est arrivée, a retrouvé sa petite fille qu'elle avait à peine connue et elle avait déjà 2 ans. Donc la psychologue a mis en place une guidance parentale à la demande aussi de la maman. Donc effectivement, dans le projet, on est souvent amené à travailler avec beaucoup de partenaires, les écoles, le périscolaire, des crèches, les hôpitaux, les libéraux. Et ce qui a amené à travailler aussi avec un autre partenaire en fin de suivi de Fulemata, puisque la CLIS 4 s'arrêtant en maternelle, il fallait penser à une intégration soit en école élémentaire, soit dans un établissement spécialisé. Donc on s'est beaucoup concerté avec l'école, avec le CAMS, lors des
ESS.
Et la famille, exactement. Elle était toujours présente. Et la famille a demandé, au vu des difficultés de Mariama à l'école, voilà, je l'ai fait, c'était bon. Bon, c'est pas grave. Allez, c'est la fin de journée. Donc, de pouvoir intégrer un institut d'éducation motrice. Alors, ce qui a été difficile justement le travail en partenariat, c'était qu'on avait une vision un petit peu différente de l'enfant, le CAMS, l'école, nous, et le versant moteur étant assez important, mais le côté visuel aussi, on s'est beaucoup posé la question de savoir est-ce qu'il vaut mieux une institution primant sur la déficience visuelle ou sur le côté moteur. Donc voilà, ça a été une grande discussion avec les parents et le sujet a fini par déboucher sur une intégration dans une institution d'éducation motrice. Voilà.
Donc, pour poursuivre, on vous laisse poser une question qui est autour de la complexité d'un tel accompagnement dans ce contexte justement de multipartenaires. Donc, tout d'abord, il nous semble toujours important de remettre la famille au centre de l'accompagnement et de les laisser prendre les décisions. En tant que structure spécialisée, nous ne souhaitons pas déposséder les parents de leur choix et nous avons pour objectif de les accompagner du mieux possible dans leur cheminement. Donc le premier partenaire étant bien sûr la famille. Concernant David, nous pouvons voir que cet enfant est suivi par 4 partenaires différents. Les hôpitaux seront regroupés ici dans un seul partenaire médecine. Chaque établissement donc évolue sur un versant différent et possède une vision de David qui lui est propre. Même si nous essayons au mieux d'être dans une interconnexion complémentaire, tous les partenaires impliqués ont des objectifs et des préconisations différentes pour cet enfant. Donc pour David, l'oncologue va donner une préconisation sur la scolarité par rapport au temps d'accueil et à l'importance de respecter la fatigabilité de l'enfant. L'équipe de CESAD se positionnera sur les adaptations de l'environnement scolaire et le CAMS mettra en avant l'importance d'un espace de socialisation et de communication. De son côté, l'école sollicitera les différents acteurs du projet et mettra en place un PPS, donc un projet personnalisé de scolarisation, c'est ça, en accord avec le cahier des charges du socle de compétences.
Donc, comme je vous avais dit, pareil pour la complexité, pour Fatoumata, c'était vraiment de trouver un lieu qui lui convienne au mieux sur l'orientation. Et même si on n'avait pas toujours les mêmes visions de l'enfant, la kinésithérapeute pouvait dire c'est une enfant qui participe pas beaucoup, qui est pas très volontaire. Et nous, dans nos prises en charge, elle était très volontaire, très curieuse, avec beaucoup d'appétence. à l'école aussi, elle se montrait assez curieuse. Donc du coup, la complexité du partenariat, c'est vraiment de pouvoir échanger tous nos regards, même la famille, comment ça se passe dans la famille, pour trouver le projet de vie le plus global pour l'enfant et ce qui répondrait le mieux à ses besoins. Dans le cadre d'un handicap, enfin d'un pluri-handicap en tout cas, en ce qui concerne Fatoumata. Donc à l'hôpital, d'une manière générale, nous parlerons de technicité du soin. À l'école, ce sont les apprentissages et les compétences scolaires qui prévalent. Au CAMS, c'est l'importance est donnée sur la pour David sur la problématique relationnelle avec l'enfant et sa famille, et pour Fatoumata, c'est plutôt sur le versant rééducation fonctionnelle. Et enfin, au CESA, nous sommes porteurs généralement des techniques de compensation du handicap visuel. Donc on voudrait finir en disant qu'il est donc parfois difficile de concilier tous ces aspects et de mettre en œuvre des projets séparément en restant adapté aux besoins de l'enfant et sans surcharger son emploi du temps.
Et pour conclure, en fait, moi, je voulais rebondir par rapport à l'intervention qu'on a eue ce matin par Myriam Vinance, par rapport au projet de vie, justement. Et pour les enfants du CESAD, on se pose souvent la question de l'avenir et de l'orientation. Donc, parce que justement, les enfants qu'on accompagne au CESAD, ils ne rentrent pas dans les classifications et les agréments. Donc, on soulève souvent la question de la priorité, en fait, d'un handicap sur l'autre, pour essayer de trouver une structure la plus adaptée possible pour ces enfants qui sont finalement porteurs soit de polyhandicap ou de multi-handicap ou de pluri-handicap. Et donc, moi, je voulais conclure là-dessus parce que c'est vrai qu'l'intervention était très bien ce matin, super intéressante, bravo. Et c'est vraiment des choses qu'au quotidien, nous, dans notre travail d'orientation en tant que structure spécialisée, on y fait face parce que finalement, tous ces enfants qui ont une déficience sensorielle avec des troubles associés, ils ne trouvent pas leur place dans des institutions parce qu'ils ne rentrent pas dans les cases. Donc voilà. Merci de votre attention.
Merci.
Et du coup, juste, on voulait vous montrer les conventions de partenariat qui avaient été signées avec le CAMS, donc pour Fatoumata, voilà, et pour David.
Bien, merci pour cette intervention. Le docteur Lebail se fait une obligation de réserve parce qu'elle est directement impliquée dans cette structure. Donc, je vais prendre le relais. Je voudrais, avant de vous passer la parole, pour faire quelques remarques. D'abord, pour vous remercier pour cette intervention. On disait pour Fatouma, elle a eu 5 projets de vie. Et je me pose la question, moi, de la notion de parcours de vie. Parce que chaque fois que vous nous présentez des cas, on voit ces moments un peu de rupture, de changement, de coordination. Et la question que je me pose, c'est autour de ces projets de vie qui peuvent être différents d'un partenaire à l'autre, comment vont vivre les parents ? Mais aussi ceux ou celles qui sont directement concernés, c'est-à-dire les enfants eux-mêmes, ces ruptures dans leur parcours de vie. Alors ça, c'est un premier point que je voulais dire. Le deuxième point, on l'a souvent cité, on dit, mais il faut qu'on ait un projet de vie pour ces enfants. Mais c'est parce qu'ils sont handicapés, il faut un projet de vie. Alors que pour n'importe quel enfant ordinaire, on ne demande pas de projet de vie. Est-ce que vous avez un projet de vie ? Et donc, cette notion de projet de vie, c'est à interroger aussi. Est-ce que parce qu'ils sont handicapés, il faut qu'ils aient un projet ? Et j'ai beaucoup de familles que j'ai rencontrées, ou de personnes handicapées, qui me disent, c'est dur, moi, parce que bon projet. Et toi, tu as un projet dans ta vie ? Qu'est-ce que je vais écrire ? Qu'est-ce que je vais construire là-dessus ? Alors ça, je voudrais aussi faire cette remarque. Et on a beaucoup travaillé, vous travaillez beaucoup sur cette notion de parcours de vie et parcours de vie pris en charge d'abord par le sujet handicapé. J'aimerais bien savoir, vous me direz tout à l'heure, ce qu'elle en pense, elle, Fatouma, son projet de vie, parce que les parents, vous, d'accord, mais elle, qu'est-ce qu'elle en dit aussi, hein. Enfin, dernier point, vous dites, mais au bout d'un moment, on ne trouve pas l'établissement adapté pour Fatouma. Non, elle est inadaptée pour l'établissement. Mais moi, la question que je me pose, c'est, est-ce que ce n'est pas aux établissements, à vous, à moi, à s'adapter au cas qu'on présente ? D'accord ? Donc, ça aussi, cette question revient souvent de dire, mais ils ne rentrent pas dans la bonne case, quoi. Mais les cases, elles n'existent pas. Est-ce que ce n'est pas à nous, au sens très générique du terme, à trouver en particulier des processus qui nous permettent d'accueillir largement ces enfants qui sont atypiques, hein, qu'on ne peut pas classer, etc. Donc, je voulais revenir déjà sur ma première question. Alors, qu'est-ce qu'elle en pense, elle, Fatouma, de ce parcours de vie ?
Fatoumata, on lui a beaucoup...
Fatoumata,
on lui a beaucoup... quand elle était plus petite, bébé, bon, voilà, c'était un petit peu compliqué. Après, par contre, quand elle a été en crèche, c'était une demande des parents de pouvoir être, rencontrer d'autres enfants. Ensuite, elle disait pouvoir être très contente d'aller à l'école, de pouvoir apprendre des choses. Donc, du coup, ça, elle était demandeuse de pouvoir aller à l'école. Après, il est vrai que quand les parents ont été confrontés à l'école qui ont pu dire ça va être compliqué qu'elle aille en élémentaire, il va falloir trouver une autre solution. Je pense que Fatoumata, avec ses capacités à elle, elle aurait préféré rester dans cette école. Mais de toute façon, elle ne pouvait plus rester dans cette école. C'est une école maternelle. Donc voilà. Et puis au final, en parlant avec elle d'une nouvelle institution, en plus, je dis ça comme ça, c'est pas très bien, mais c'est assez bien tombé puisqu'elle a dû se faire opérer des hanches et qu'elle s'est fait opérer justement dans cette institution où elle est rentrée après. Ça lui a permis un petit peu de comprendre un petit peu comment ça fonctionnait, rencontrer les adultes, les enfants aussi. Et elle a dit pouvoir adhérer complètement à ce projet-là, de pouvoir aller apprendre, travailler à l'école là-bas, parce qu'il y a une école aussi. Et de pouvoir y aller, et elle était très contente, voilà.
Juste pour préciser, en fait, pendant sa période de convalescence post-opératoire, au niveau du CESAD, donc Séverine a fait le lien avec l'IEM en allant voir Fatoumata régulièrement, et donc en pouvant proposer un lien avec l'équipe et verbaliser autour de son vécu et de comment elle se projetait, elle, et comment elle pouvait vivre post-opératoire et... comment se passait sa vie, on va dire, au sein de cette institution.
Merci. Je vais vous solliciter. Il y a peut-être et sûrement des questions à ces questions. Oui, monsieur.
Dans les deux, au moins deux, trois situations qui nous ont été présentées aujourd'hui, on voyait que le travail entre différentes équipes de professionnels était important, mais c'était une des caractéristiques, des fois on pouvait voir, c'était entre des équipes d'établissements différents. Et on sait que dans chacun des établissements, on travaille pour avoir des coordinateurs ou des référents ou des professionnels pivots, ou il y a toutes sortes de termes qui existent autour de ça pour qu'il y ait une cohérence dans le PIA de l'établissement. Dans certaines situations, et on l'a vu dans une situation antérieure qui nous a été présentée, que la coordination entre les établissements dans leur PIA est parfois très déficitaire et la personne passe entre les mailles. Je ne sais pas si c'est une expression qui vous dit quelque chose. Et on se retrouve aussi dans des situations très difficiles, surtout avec des concepts de prise en charge. Et quand on a rendu que deux établissements qui disent qu'ils font de la prise en charge, il y a un problème au moins de sémantique, il me semble, là-dedans. Qu'est-ce qu'on prévoit au point de vue organisationnel pour penser qu'il y a une coordination entre deux PIA, qu'il y a une personne qui se préoccupe de la concertation entre deux équipes d'intervention qui travaillent habituellement fort et normalement fort bien?
Oui, est-ce que vous voulez
Alors, effectivement, il n'y a pas du tout de personne coordinateur qui s'occupe, enfin, c'est pas un métier qu'on a dans notre équipe à disposition. Maintenant, on essaye de s'en débrouiller. Effectivement, c'est une vraie question de savoir comment est-ce qu'on peut se coordonner. Est-ce qu'on devrait faire un projet commun avec les différents partenaires? Est-ce qu'on doit faire différents écrits? Ce qu'on essaye de faire au mieux, c'est de toujours, avant les synthèses des enfants tous les ans, de pouvoir se réunir avec tous les partenaires pour parler justement de quelle a été l'évolution de l'enfant durant toute cette année-là, de pouvoir justement mieux coordonner tout ce dont l'enfant a besoin selon les prises en charge de chaque institution, et de veiller à ce que l'emploi du temps ne soit pas trop surchargé, qu'on réponde au mieux aux besoins. Moi, je vois pour le cas de David, ce n'est pas un enfant que je suis sur le service, parce qu'il a déjà énormément de prise en charge au demeurant sur le CAMSP. Donc, on a pris le parti de ne pas lui proposer d'éducatif sur le CESAT parce que ça ne devenait plus cohérent. Voilà, donc, on essaye toujours, même si on n'a pas ce corps de métier-là, le coordinateur qui pourrait... réunir un petit peu et penser le projet commun. Mais en tout cas, on essaie toujours de veiller au grain et de penser au mieux le projet de l'enfant ensemble.
On peut lever les obligations de réserve là, du docteur Lebaille, peut-être, si tu veux dire quelque chose.
C'est vrai que cette notion de parcours de soins et de coordinateur, c'est la question qui se pose actuellement. Hein, c'est un métier qui devrait être créé, qui devrait être reconnu. On en a fait la demande auprès de certaines tutelles. Bien sûr, quand on voit des cas comme ça, Pour nous, ça vous paraît simple quand elle vous raconte comme ça, mais monter des partenariats comme on a fait en faisant signer les CAMS pour des prises en charge conjointes de la MDPH, monter des projets comme ça à plusieurs, c'est vraiment pas simple du tout en réalité, en pratique, quand on a 4 ou 5 ou 6 intervenants en face. Parce que ces gamins, quand on a un gamin qui est en chimiothérapie une semaine sur 3, par exemple, et que les deux autres semaines, la première semaine il est crevé, la deuxième semaine il va un peu mieux, et la troisième semaine il retourne à l'hosto. En gros, voilà. Donc ça pose vraiment des gros problèmes de coordination. C'est pour ça que nous, on a fait le choix de mettre un référent par enfant, comme ça se fait dans beaucoup d'institutions, mais de donner un peu plus de poids, dans le sens où moi, j'ai demandé au référent d'assister au maximum de consultations médicales. Et c'est vrai que ça nous a fait des rapports particuliers aussi avec les familles, parce que le premier geste a été de demander aux familles, même quand on ne comprenait pas trop ce que je leur demandais, de bien vouloir signer un accord autorisant les référents de mon équipe à assister et à ma consultation en premier, ce qui demande quand même au médecin de s'exposer un peu, mais d'assister, de voir si on pouvait assister aux différentes consultations. On a un peu triché comme ça, mais la première démarche, ça a été d'obtenir l'adhésion des familles pour ça. Alors c'est beaucoup plus facile avec certaines familles que d'autres, parce qu'elles peuvent considérer ça aussi comme extrêmement intrusif, et il faut garder la juste place. Mais effectivement, pourtant, on nous bassine en ce moment avec les parcours de vie, les parcours de soins, les ruptures dans les parcours de soins, etc., etc. Mais à partir du moment où on n'aura pas de vrai coordinateur, de métier de coordinateur de santé, je ne sais pas moi, qui serait référencé au niveau des MDPH, ou des vrais, quoi, ça ne pourra pas avancer. Nous, on a tourné la difficulté comme ça, mais je pense qu'il y a d'autres équipes qui ont dû avoir d'autres manières. Je pense.
Vous vouliez intervenir ?
Stéphanie Garraud, je dirige un CESAD pour déficients visuels dans le Val-de-Marne. Béatrice Levaille est notre médecin aussi dans ce service. On fonctionne un peu différemment. Je disais que la structure CESAD a un avantage, c'est qu'elle permet une flexibilité aussi que d'autres établissements n'ont peut-être pas. Donc travailler en lien avec d'autres, avec des IME, avec des structures hospitalières, c'est peut-être aussi un peu plus simple, de par la structure même du CESAD. Par contre, on a au niveau des coordinations, effectivement, on bidouille chacun un peu comme on peut, parce qu'on n'a pas de coordinateur énoncé en tant que tel. Pour ce qui est du service que je dirige, on a deux psychologues coordinatrices, donc qui sont, on va dire, référentes d'un certain nombre de familles. Mais au niveau de la coordination réellement, on est probablement, comme d'autres services, en train de se batailler sur quel est le handicap principal. Or, y a-t-il des fois des handicaps principaux? C'est toute la question. Je pense que dans beaucoup de cas, il n'y a pas de priorité, de priorisation sur les handicaps. On a effectivement à travailler très en lien avec d'autres. Nous, dans notre cas, souvent, c'est la famille qui est finalement la coordinatrice. Et donc, on a renforcé peut-être la famille dans les liens à mener entre l'hôpital, le CESAD, l'école et les différents intervenants.
D'autres interventions avec des expériences un peu diverses. Oui, Madame Prioré.
Vous vous présentez aussi ? Oui, moi je veux juste rebondir sur ce que vous venez de dire. Oui, si, je suis Myriam Brunner, je suis directrice de quelques services de l'ADEP du Rhône, déficience visuelle. Je veux juste rebondir sur ce que vous dites, sur le fait que ce soit la déficience principale ou pas. En fait, moi, ça fait pas très longtemps que... Je travaillais pendant très très longtemps dans le pôle du handicap, donc déficience sévère. Donc je prétends pas connaître grand-chose au niveau de la DV, mais mon expérience dit quand même qu'en général, c'est les professionnels, c'est-à-dire la spécialité du service, qui amène à se poser la question de la déficience principale de l'enfant. Ben, est-ce qu'il est plutôt DV ? Ben, s'il a d'autres troubles que des déficiences visuelles, on va dire, ben, nous, on ne sait pas faire. Donc voilà. Mais ce n'est pas du point de vue de l'enfant. J'ai l'impression qu'on ne se situe pas tellement du point de vue de l'enfant, mais plutôt du point de vue de la spécialité du... Et je suis tout à fait d'accord avec vous que... Mais je pense que ça vient des professionnels. La posture professionnelle de nous tous, hein, je ne dis pas que c'est... Et qu'en fait, il faudrait pouvoir arriver à inverser, à dire que ben, cet enfant, effectivement, il a quelques difficultés, mais il n'y en a pas forcément une qui est principale uniquement parce que nous, on sait faire que dans son champ. Et là, il y a du progrès à faire, je pense, qu'on est en train de faire.
Ben c'est tout le problème, surtout chez les petits, hein, entre déficience intellectuelle, déficience visuelle et trouble de la relation, de la communication. Comment vous les... Enfin, même en tant qu'ophtalmo, moi, parfois, quand on me pose la question, il voit pas, il est en relation. Est-ce que c'est une fuite du regard ? Est-ce que c'est une excentration du regard ? Est-ce que c'est... Et il faut savoir qu'on a les premiers tests vraiment d'évaluation au point de vue ophtalmo, parce qu'on essaie de rester un peu objectif, sont juste en train de sortir. Et on n'est pas beaucoup à les manipuler, hein. Donc, voilà, il y a souvent des défauts aussi d'appréciation clinique. Hein. Exactement, exactement. À la fois, il ne faut pas catégoriser, et à la fois, il faut essayer aussi d'avoir une vision objective des capacités de l'enfant. Parce que parfois, en n'allant pas chercher exactement ce qu'il voit, ce qu'il ne voit pas, ce qu'il sent, et bien parfois, on peut passer à côté de capacités aussi. Hein, et on peut sous-évaluer parfois des enfants.
Oui, puis, enfin, moi, je voudrais rajouter que... Sur le service, on ne catégorise pas. C'est-à-dire que là, ça s'est trouvé comme ça. On a travaillé le partenariat avec le CAMS et c'est vrai qu'on a un petit peu séparé un petit peu les rôles. Mais après, souvent, on est forcé, après, en tant que professionnel, de catégoriser. Puisque quand on doit travailler une orientation, on ne trouve généralement pas sur ces enfants où il y a plusieurs handicaps une institution qui répondrait à les troubles moteurs, là, en l'occurrence, et la déficience visuelle. Donc, finalement, c'est vrai que la famille, souvent, parce que là, c'était la famille qui était confrontée à ça, et a dit, mais quel choix je dois faire ? Ça a été très compliqué pour la famille de choisir, finalement, parce que là où elle est allée, c'était vraiment prise en charge de la déficience motrice. Donc,
En plus, pour la famille, elle était prise en charge conjointement par un CAMS polyvalent et par un CESAD DV. Donc elle s'est dit un IUM en continuant le CESAD. Ça lui paraissait tellement évident. Hein. Après tout, voilà, le CESAD interviendra dans l'IUM. Sauf que quand on a eu les premières réponses d'IUM qui nous disaient « Nous, on ne fonctionne pas comme ça, on ne vous accepte pas comme ça dans nos murs », ça a été la grande surprise de la part de la famille, parce que jusque-là, ce qu'on faisait avait l'air tellement normal que ça leur était même pas venu à l'idée qu'un établissement puisse dire « Mais nous, un CESAD qu'on ne connaît pas, qui intervient chez nous, vous intervenez au niveau de quel titre, etc., etc. Comment on va monter, qui va payer, combien de temps, etc. etc. » Et je pense que c'est une des problématiques qui, avec la déficience visuel va se poser. C'est toute la problématique après des équipes relais, des interventions conjointes, et ça va être des projets conjoints, etc., etc. On est en plein dedans, là.
Bien, est-ce qu'il y a d'autres interventions, d'autres remarques ? Il y a aussi la notion, peut-être, de ressources, c'est-à-dire que, de plus en plus, au niveau des agréments, ce qu'on appelait les agréments des établissements, qui figeaient quand même ces établissements dans des cadres un peu précis. De plus en plus, on va réfléchir à cette notion de dire, cet établissement présente des ressources particulières au regard de telle problématique. Et c'est ce qui va nous intéresser, en particulier au niveau de la construction des équipes, enfin qui se construisent, qui sont en construction, des équipes en handicap rare, qui se mettent en place autour de cette notion de ressources et d'accompagnement de nos propres équipes et d'autres équipes autour de ces cas en handicap rare. Bien, ben écoutez, on va encore remercier toutes ces équipes, toutes les équipes qui sont... Bien sûr. Je voulais dire aussi, mais pour finir aussi, je suis persuadé que dans l'après-midi, vous avez dit, mais ils se sont exposés un peu à notre regard, un peu critique, mais j'aurais pu, moi, être à leur place. Je suis sûr que vous avez pensé ça cet après-midi. Alors, les prochaines fois, vous n'hésiterez pas, prochain congrès de la FISAF, Maurice. Il y a d'autres équipes qui voudront intervenir parce que je suis sûr que vous avez des choses à dire. En tout cas, merci de votre attention.
Partez pas.
Je passe la parole tout de suite.
30 secondes d'information, s'il vous plaît. On risque de ne pas se voir collectivement tous ensemble demain puisqu'on est organisé en atelier. Pour la soirée et le film, il est impératif de vous munir de cette invitation. Il s'agira de la salle 8 au cinéma UGC Cinécité. Impérativement, il faut y être à 17h30 avec ceci. Sinon, vous ne rentrez pas. Première information. La deuxième, pour l'atelier qui se passera dans cette salle. J'ai perdu ma feuille, pardonnez-moi. J'aurais souhaité, pour des raisons logistiques d'organisation personnelle d'un des intervenants, qu'on intervertisse deux présentations. Il y en a une qui est prévue à 11h20, atelier de dramathérapie pour enfants sourds avec handicap associé, Christine Baldaquin et Georges Condo. J'aurais souhaité qu'ils puissent intervenir l'après-midi à 15h15, ce qui permettrait à l'intervention du docteur De Bruges et Eric Zamit de passer le matin à leur place, puisque le docteur De Bruges doit prendre un avion et partir. Il part en vélo, dit Joël David. Donc, il faut lui laisser le temps d'aller chercher son vélo. Bon. Est-ce que cela est possible? Je ne sais pas si Christine Baldaquin est dans la salle. C'est possible? Merci beaucoup, vous êtes bien aimable. Monsieur Zamit vous fera un bisou. Bonne soirée à tous, la soirée est libre. Oui, après le cinéma, il faut revenir ici, il y a le dîner qui est organisé ici, dans la même salle où vous avez eu votre déjeuner et les pauses. Merci à tous, bonne soirée.